Et on va faire une lecture du livre Le Quai de Vigan de George Orwell, qui explique dans les années 30 un peu son incursion dans le monde des mineurs du nord de l'Angleterre. Et c'est un extrait qui décrit le trajet qu'il faut faire avant même de mettre le premier coup de pioche à l'intérieur des mines, qui est déjà, pour lui en tout cas, super harassant. Voilà, on écoute ça. Ah, ok.
Il faut avoir parcouru quelques centaines de mètres pour commencer à comprendre ce que cela représente. Vous vous engagez, courbant légèrement le dos, dans une galerie faiblement éclairée d'environ 3 mètres de large sur 1,50 m de haut, aux parois revêtues de plaques de schiste, comme les murs de pierre du Derbyshire. Tous les 2 mètres, vous rencontrez des étançons de bois qui soutiennent les poutres et longerons. Certaines poutres ont pris des postures insensées, au point qu'il faut passer dessous à croupetons. Sous vos pieds, rien pour faciliter la marche. Une poussière épaisse, des morceaux de schiste déchirés, ou, quand il y a de l'eau, un sol aussi bourbeux qu'une cour de ferme. Il y a aussi les rails des berlines formant une sorte de voie ferrée en miniature, avec des traverses espacées de 30 à 60 cm qui rendent la progression particulièrement pénible. Tout est gris de poussière. Une poussière dégageant une odeur brûlante que l'on retrouve, semble-t-il, dans toutes les mines. Vous apercevrez de mystérieuses machines dont vous ignorez la destination. Des grappes d'outils accrochées à des fils métalliques, parfois des souris qui détalent dans le faisceau des lampes. Ces souris sont en nombre étonnant, en particulier dans les mines qui utilisent ou ont utilisé des chevaux. Je serais curieux de savoir comment elles ont pu arriver là. Peut-être simplement en dégringolant à travers le puits. À ce qu'on dit, une souris peut tomber d'une hauteur pratiquement illimitée sans se faire mal à cause du rapport entre son poids et la surface de son corps. Vous vous collez contre la paroi pour laisser le passage au convoi de berlines qui s'achemine lentement vers le puits, entraîné par un câble sans fin manœuvré depuis la surface. Vous vous faufilez entre des rideaux de toile à sac et franchissez de lourdes portes de bois qui, une fois ouvertes, laissent passer de violents souffles d'air chaud. Ces portes jouent un rôle important dans l'ensemble du système d'aérage. L'air vicié est aspiré à l'aide de ventilateurs à travers un puits, tandis que l'air frais entre normalement par un autre puits. Mais livré à sa seule initiative, l'air a tendance à emprunter le circuit le plus court et donc à délaisser les chantiers situés le plus loin de la surface. C'est pourquoi il est nécessaire d'établir des cloisonnements interdisant tout raccourci. Au début, marcher courbé prend l'allure d'une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie qui perd très vite tout sel. Je suis personnellement handicapé par ma taille au-dessus de la moyenne, mais quand le toit s'abaisse à 1,20 m et même moins, l'affaire devient sérieusement éprouvante pour qui n'est pas un nain ou un jeune enfant. Car il ne s'agit pas simplement de se plier en deux pour marcher. Il faut encore garder la tête levée pour repérer les poutres et longerons et les esquiver quand on les rencontre. D'où une sorte de torticolis permanent qui n'est encore rien comparé à la douleur qu'on ressent dans les cuisses et les genoux. Au bout de moins d'un kilomètre, cela devient, je n'exagère absolument pas, une insupportable torture. Vous commencez à vous demander si vous allez pouvoir aller jusqu'au bout du trajet. Quant au retour, vous préférez ne pas y penser. Votre allure se ralentit de plus en plus et voilà que survient un passage particulièrement bas où, pendant 2 à 300 mètres, vous devez progresser à croupetons. Puis, sans prévenir, le toit s'exhausse mystérieusement, conséquence sans doute d'un éboulement de la roche, et vous vous trouvez avec devant vous 20 bons mètres où vous pouvez enfin déplier votre carcasse. La sensation de soulagement est très vive. Mais aussitôt après, vient un nouveau passage bas d'une centaine de mètres, débouchant sur un tronçon encombré de poutres sous lesquelles vous devez vous couler tant bien que mal. C'est presque un délice de se mettre à quatre pattes, comparé à ce que vous avez enduré auparavant. Mais quand parvenu au bout, vous tentez de vous remettre debout, c'est pour découvrir que vos rotules refusent de continuer à vous propulser. Ravalant votre honte, vous implorez une halte, disant que vous aimeriez bien prendre 1 ou 2 minutes de repos. Votre guide, un mineur, fait preuve de compassion. Il sait, lui, que vos muscles ne sont pas faits de la même matière que les siens. Encore 400 mètres et on y est, vous dit-il en guise d'encouragement, alors que vous songez que, pour vous, 400 mètres ou 400 kilomètres. Mais tout a une fin et vous finissez par accéder au front de taille après avoir parcouru quelque temps, quelque chose comme 1,5 km en une heure de temps. Sans le poids mort que vous représentez, un mineur aurait effectué le même trajet en une vingtaine de minutes. Arrivé à pied d'œuvre, vous vous étalez dans la poussière de charbon et restez ainsi plusieurs minutes à reprendre suffisamment de souffle pour être en état d'observer, avec quelque chance d'y comprendre quelque chose, ce qui se passe autour de vous.
Merci. Et du coup, après, dans le livre, il y a plein de trucs bien glauques.
Travaillez plus, gagnez plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas, ouais, travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs, je me fume un pétard. J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça pour le sud, hein.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas, ouais, travailler du tout.
Madame, monsieur, je vous écris suite à votre annonce parue dans le journal Carrière et Emploi. Je jure que je n'ai rien fait de mal, je jure que je n'ai jamais agi dans l'intention de nuire, je jure que, même si certaines fois j'ai pu faire des erreurs, cela n'était pas de manière intentionnelle. J'ai toujours mené une existence paisible, je paye mes impôts, je ne bois pas plus que de raison, ou alors je prends pas ma voiture pour rentrer chez moi. Je me drogue pas, j'aime les animaux, je ne vole pas, j'achète des produits de grande consommation, comme tout le monde. Je me connecte souvent à Internet, je regarde la télévision, je fais du sport pour garder la santé. Plus tard, je voudrais un enfant ou deux et un chien. J'ai aussi l'intention de devenir propriétaire foncier et peut-être d'acheter des actions. J'ai des témoins qui m'ont vu ne rien faire. Je ne comprends pas de quoi je suis coupable. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez me punir aux travaux forcés sur les bases de données. Le supplice est démesuré par rapport à mes minuscules erreurs. J'ai oublié de souhaiter quelques anniversaires. Le gazon du jardin est mal tondu. Une absence ou deux à l'école, pas justifiée. Je vous en prie, ne m'embauchez pas. Dans l'attente d'une réponse rapide de votre part, je vous prie, madame, monsieur, de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments distingués. C'est une lettre de non-motivation signée de Julien Prévieux qui a été envoyée, comme beaucoup de lettres de non-motivation, à la suite d'une annonce pour du travail, et qu'on trouve dans un bouquin qui s'appelle « Lettres de non-motivation » de Julien Prévieux. Il y publie à la fois ses lettres qu'il envoie et les réponses qu'il reçoit de la part des entreprises qui disent « Nous avons lu avec grand intérêt votre lettre de motivation. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre... Ou alors, nous avons bien lu votre CV. » Et alors qu'il dit dans une autre lettre, par exemple, « Votre emploi ne m'intéresse pas, donc je ne vous enverrai même pas mon CV. » Et il reçoit une réponse: nous avons bien lu avec attention votre CV et votre lettre de motivation. Voilà, c'est assez drôle.
Ça s'appelle, j'ai vu, il y a de la lumière là, c'est chic. Conseil aux nourrissons. Tiens, je vous l'enlève, allez, je la mets là.
Toi, l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant qu'on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père, qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Plutôt que d'apprendre à l'école, baise et collectionne les véroles, la médecine fait quelques progrès. Tandis qu'à gagner du bagage, tu n'aboutirais qu'au chômage, où déjà se sont entassés ceux qu'on crut dans la société. Sois payant, tu vivras content. Sois payant, tu vivras longtemps.
Moins tu en fais, plus tu laisses faire, plus ta santé déjà précaire te libère de ses tourments. Gagner ta vie ne vaut pas le coup, attendu que tu l'as déjà, le boulot y en a pas beaucoup. Faut le laisser à ceux qui aiment ça, sois feignant, sois feignant. Tu vivras content, sois feignant, tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un copain, tu en auras moins de chagrin que si tu n'as pas à manger. Et si t'as la main sur le cœur, n'hésite pas à la couper, tu entendras moins les moqueurs. Si c'est toi qui les as roulés, sois feignant, tu vivras content, sois feignant, tu vivras longtemps. Si jamais tu voles un couillon qui t'envoie tout droit en prison, dis-toi qu'il est plus mal logé. Car pour te payer ta pitance, tandis que tu feras pénitence, lui qui est si fier de t'enfermer, faudra encore qu'il aille bosser. Sois feignant, tu vivras content. Sois feignant, tu vivras longtemps. Voilà, c'était mon héritage. Comme tu vois, j'ai fait mes bagages. Je te laisse avec ta maman. Tu perds rien, j'ai pas le gros lot. Et tant pis pour toi si je triche. Tu seras peut-être un enfant de salaud. Mais tu seras pas un gosse de riche, sois feignant, tu vivras content, sois feignant, mon enfant. L'avenir t'attend.
Fin de la pause. Est-ce que j'ai bien entendu ces mots ? J'ouvre les yeux. J'émerge doucement. Tout ce blanc. La réalité revient à moi. Revient en moi. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Sortant comme moi de leur léthargie, les autres s'animent. L'un est assis et regarde autour de lui, l'air hagard. Un autre se relève en maugréant. Un troisième boit à sa gourde de métal. Est-ce que j'ai entendu ces mots ? Je ne sais pas. D'habitude, je les entends, c'est sûr, je ne dors pas. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai sombré dans le sommeil. 30 secondes ? 10 minutes ? J'en sais rien. Peu importe, faut s'y remettre. Nous sommes 10 ressemblants à différenciés. 10 fantômes. Combinaison blanche, bottes blanches, casque blanc, fondu dans le blanc de ces montagnes de sucre. Fantômes silencieux. Les bruits sont étouffés. Les coups de pioche dans les blocs de sucre font un ploc mat et lointain. Le mec à côté... S'il parle normalement, j'entends pas. Au reste, personne ne parle, ou si peu. De loin en loin, sporadiquement, des paroles déformées, des mots incompréhensibles m'arrivent. Mais d'où ? Les sons tournent et courent le long des épais murs de béton. Presque autant que le boulot, c'est s'arracher à cette atmosphère cotonneuse, étouffée, étouffante, qui est dure. Je suis à l'intérieur d'un cylindre de 30 mètres de diamètre sur 54 mètres de hauteur. En plein milieu, une colonne d'environ 4 mètres d'épaisseur qui monte là-haut soutenir le toit. Le tout en béton, peint de couleur bleu pâle. La lumière blafarde de deux énormes lampes achève de lisser les velléités de contraste. Au fond de ce cylindre, sur une hauteur variant de 10 à 15 mètres, restent 5000 tonnes de sucre. Il est censé s'écrouler par gravité, au gré des besoins du conditionnement. Devrait sagement glisser par les trémies, sorte d'entonnoir moulé dans l'épaisseur du sol, pour être emmené vers son destin de sucre. Mais celui-là, il ne veut pas finir en petits morceaux dans ton café, ou fondu dans une confiture de grand-mère, ou complice de l'impérialisme américain, délayé dans du Coca-Cola. Il renacle, il s'agrège, colmate, résiste, la force de l'inertie. C'est un extrait d'un petit bouquin qui s'appelle « Casser du sucre à la pioche », écrit par Éric Louis, et c'est sur l'histoire de ces cordistes qui sont appelés à aller nettoyer tous ces volumes gigantesques fabriqués par l'industrie, et notamment l'industrie du sucre. Et voilà, c'est assez chouette, et c'est aux éditions du commun. Et là, il y a une petite citation pour commencer qui dit « La vie d'un entrepreneur est souvent plus dure que celle d'un salarié. » Et c'est signé d'Emmanuel Macron, humaniste du début du 21e siècle.
Bah tiens, on peut écouter, on va voir un témoignage de la vie d'un salarié. On va voir si elle est plus ou moins dure que la vie d'Emmanuel Macron, d'un dirigeant, pardon.
Christian Corrouge a travaillé chez Peugeot toute sa vie. C'est terrible, les souvenirs qu'ont les familles du travail en chaîne. Pourtant, les pères n'ont jamais raconté. Rares sont les enfants. Moi, j'ai beaucoup circulé, beaucoup fait les écoles. Et quand j'interrogeais les gamins sur la profession de leurs parents, ils travaillaient chez Peugeot. Mais oui, mais où ? Alors là, c'est déjà l'ignorance. Et il fait quoi ? Il raconte comment ? Il raconte pas. Et c'est ça la chaîne aussi, de ne pas raconter, parce qu'il n'y a rien à raconter. C'est pas un boulot noble, c'est pas un boulot valorisant. T'as pas envie de dire à ton fils ou à ta fille que t'as serré des boulons, que tu te demandes à quoi ça sert pendant toute une journée. Il n'y a rien à en dire. Et c'est ça le problème de la chaîne, c'est qu'à un moment donné, ça t'abîme le corps, ça t'abîme le cerveau, tu le sais, t'es conscient, et t'es pas capable de le transmettre à quelqu'un, parce que il n'y a pratiquement rien de transmissible là-dedans. Il n'y a rien, c'est tellement pas valorisant. Tu ne vas pas dire « je vais laisser une trace ». Quand tu es tourneur à l'usine, tu peux faire une quille quand tu t'en vas en retraite. Mais quand tu es en chaîne, qu'est-ce que tu vas montrer ? Qu'est-ce que tu vas ramener de la boîte ? Une poignée de vis pourrie ? Un poste punition ? Tu n'as pas envie d'en parler. Et à part tes douleurs, tu ne transmets rien.
Christian Corrouge a quand même rapporté quelque chose de sa vie à la chaîne. La pince avec laquelle il a graffé les garnitures des sièges.
Pour moi, c'est des tortures qui hantent encore mes nuits maintenant, je veux dire, cette pince. Voilà.
Et pourtant, tu l'as gardée.
Ah, je l'ai gardée parce que je trouve toujours intéressant de garder un souvenir de ce qui t'a fait mal.
C'est pour nous faire la joue vermeille. Printemps, c'est la moindre des choses. Un hors-d'œuvre en pétales de rose. La neige, c'est pour faire joujou entre deux whisky. C'est pour nous. On n'est pas des chiens. On ne traverse pas entre les clous, comme les mémères et leurs toutous. On est très anticonformiste, on aime le risque, on aime le twist. On ne fera rien comme maman jusqu'à l'âge de 25 ans. On n'est pas des moutons. Femme des amis, c'est sacrément beau à toucher. On la rend le surlendemain, on la remet dans le droit chemin. On lui fait un brin de morale pour avoir un peu d'idéal. On n'est pas des boucs. Tu me donnes la moitié de ton manteau, je t'étrangle avec aussitôt. Pour te prendre l'autre moitié, c'est ce qu'un savant réputé nommait la survie des plus aptes, c'est le plus malin qui s'adapte. On n'est pas des pigeons. On a la mèche ensorcelante, on a la lippe désarmante, on insulte des malabars, bien à l'abri dans nos jaguars. On est la France de demain, vous avez deviné. Enfin, on n'est pas des chiens, on n'est pas des moutons, on n'est pas des boucs, on n'est pas des pigeons, on est des hommes.
Yes.
Et voilà, c'est la fin de notre émission. Vous aviez au micro vert Nouchmi, au micro rouge PZ, au micro jaune PVC, pardon, à la technique Bob et la loutre.
Et bah, l'extrait qu'on a entendu juste avant là, sur la chaîne chez Peugeot, du coup, ça a été tiré d'un long documentaire.
Ouais, un documentaire qui est en 4 parties, qui passe actuellement sur Arte, qui s'appelle Le temps des ouvriers. Voilà, qui est assez intéressant sur toute l'histoire de, du travail, un peu, des luttes, des oppressions. Voilà.
Et du coup, dans ce thème, évidemment, on avait envie de parler de plein d'autres choses, de films, de bouquins et tout ça. Et peut-être qu'on peut faire une biblio comme ça pour se quitter et ne pas appeler et ne pas oublier l'appel à la grève générale. Mais si on veut se documenter, je sais pas, tu pensais à un film aussi dont tu voulais parler?
Oui, je me rappelais de Volem rien foutre al pays, où il y a quelques témoignages assez chouettes. Enfin, assez chouettes. Oui, si, assez éloquents, c'est ça qu'on dit?
Ouais, peut-être. qui parle aussi de la souffrance au travail, aussi de ne pas y aller, quoi, de vouloir ne pas y aller. On vous a lu des extraits de Le Quai de Vigan de Orwell, Le Travailleur de l'Extrême de Hacke Anstalning, Lettre de non-motivation de Julien Dupieux, Prévieux, pardon. Puis après, il y a d'autres.
Il y a eu aussi un extrait de Voyage au bout de la nuit de Céline, Le droit à la paresse de La Fargue.
On aurait pu parler de la biographie, l'autobiographie d'Emma Goldman, Vivre ma vie, où on est carrément dans le contexte de Haymarket.
C'est ça, oui,
Chicago.
Ouais. Après, qu'est-ce qu'on a comme note?
Ah bah non, mais non.
Ici, Eric Louis, Casser du sucre à la pioche.
De la Russie à l'Argentine, parcours d'un anarchiste au début du XXe siècle, on n'a rien lu de ça, mais c'est pareil, ça parle, on est dans les mêmes contextes.
Mais lutte sociale.
Il y a Last Exit to Brooklyn de Hubert Selby aussi, qui parle...
De la grève, non?
De la grève, ouais. Voilà. Notamment, enfin, entre autres.
Après, dans le style roman, il y a...
On peut continuer la liste.
Ouais.
on va à la bibliothèque.
Non, dans les romans, il y a Ian Levison qui a écrit Tribulation d'un précaire aussi, pas mal de petites histoires de taf, tous aussi merdiques les uns que les autres. La formation de la classe ouvrière anglaise par Thompson.
Et aussi, par rapport à cette histoire de marché, on se redisait que ça pouvait être vraiment chouette de se faire passer, de réfléchir à des champs qu'on pourrait interpréter tous au moment du marché, quoi, pour être ensemble dans la parole et le plaisir de donner, de chanter et d'être sur ces lieux de sociabilité.
Et peut-être que la chanson d'Igor Agar est assez courte pour qu'on la prenne d'ici jeudi, non?
Tu peux la chanter un peu?
Ah non, moi j'ai... C'est... J'emmerde le travail.
Ah oui.
Allez, on la remet.
Ouais, c'est une bonne idée. Ouais.
Ouvrez les mirettes. Non, je travaille.
Thank you. terre, l'amour et le droit. J'emmerde les grabataires qui écrivent nos lois. Société caca, société pipi, société capito des capitalistes. Société caca, société pipi, arrête aux sociétés, je ferai le reste à pied.
En fait, on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée. Enfin, que peut-être, mais que peut-être on pouvait en avoir d'autres aussi.
Oui, c'est pas un peu d'ordre.
Si vous avez des idées de petites chansons faciles à apprendre, voilà.
D'ici jeudi, faites signe, on les passe.
Ouais. Ou un autre jour.
Hors micro, on se disait aussi qu'on pouvait vous dire au revoir. Alors,
voilà, bah, on arrête tout.
Eh ben, au revoir, bonne fête du non-travail et donc on pense à la grève générale.
Ça marche. À demain.
À demain. Attends, est-ce que. Attends. Yo, an old killer bee once hummed me a tune. Stay up at night, don't sleep on your moon. Et aussi demain matin, il se sera, enfin demain matin midi quoi, mais on espère être réveillé pour proposer de la musique à danser, faire un petit boom quoi.
Ah ouais, à demain. Big silver pot boiling water salt in it. House full of brothers and sisters, the pot's missing. Pilgrim on a box on the stove in the kitchen. When I was small, we had nothing at all. We used to eat greens for dinner. Yo. Young shorties in my hood started hustling, packing bags at the neighborhood associate. Growing up, not as fortunate to have a fly shit. I'm too young, no job to hire me legit. You walking down the street with your gun in your hand, drinking, thinking of a master plan. Your old earth can't afford what your friends got, so you roll up to the spot with your thing punk cock, and it seemed worth the taking. Stomach aching, morning star veggie bacon go good with the grits. Now let's take it back for real, when we used to build a ghetto big wheels with the shopping cart wheels and wood to nail the seat on. Girls skipping rope in the streets, the summer heat left the jelly print stuck to their feet. Skelly cheap, flip you baseball cards for keeps. Mama said it's getting late and it's time to come eat. When I was small, we had nothing at all. We used to eat greens for dinner. It was pain. But I